MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Imo.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 9h10, on a quelques minutes de retard, désolé, on devait démarrer à 9h. On est ravis de vous retrouver pour cette seconde journée, édition 2025 du MIPIM. Nous sommes le 12 mars et vous êtes sur IMO, ravis d'être avec vous. Vous l'avez vu hier, nous avons eu un entretien avec Valérie Létard qui a été très attendu et plutôt très offensif. Donc on tient également avec l'ensemble de la rédaction à la remercier d'être venue sur notre plateau. Beaucoup, beaucoup d'activités. Et je vous propose, puisque vous le savez les amis, à travers l'une de nos radios du groupe qui s'appelle Territoria, on fait toujours des focus sur les élus locaux parce qu'on part du principe que ce sont d'abord les élus locaux qui sont à portée de territoire. Voilà. Et on avait souhaité d'ailleurs les réunir. Ils sont là avec nous et pas des moindres. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour ouvrir le bal de cette seconde journée du MIPIM, le président de l'Île-de-France, maire de Châteauroux, Gilles Averrousse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous de l'invitation et de cette thématique qui nous tient très à cœur.
Merci en tout cas. Voilà, il est. Alors là, je peux. Voilà. Le coup de cœur. Il est le maire de Libourne, c'est Philippe Buisson. Bonjour.
Bonjour.
Bon, parce que voilà, j'aime beaucoup votre région, vous le savez. Merci d'être avec nous. On va faire un focus sur votre ville magnifique. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose, vous allez voir, on va en parler tout à l'heure, c'est juste extraordinaire. Une ville qu'on aime aussi beaucoup avec son maire et l'ensemble de l'équipe municipale. Elle est la première adjointe de la mairie de Saint-Dizier. Elle est avec nous, c'est Rachel Blanc. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Merci beaucoup. Ça va très bien.
Voilà, nos amitiés à Cantabrière qu'on espère croiser.
Je n'y manquerai pas.
Voilà, un maire emblématique, un maire comme on les aime et très engagé auprès de ses administrés. Merci à vous tous d'être avec nous. On avait souhaité également avoir l'un des industriels qui pèse sur le secteur, notamment en matière de financement de la rénovation énergétique. Et Dieu sait que sur le financement de la rénovation énergétique, il y a un vrai sujet aussi pour les bâtiments publics, pour les structures publiques, pour la transition environnementale. Il est avec nous, il nous fait le plaisir d'être présent. Il est le président d'ACT France, c'est Olivier Wasanin. Bonjour Olivier.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous.
Merci beaucoup de me recevoir en aussi bonne compagnie.
Alors, l'idée, c'est de faire un focus sur vos actions, messieurs et dames. J'aimerais commencer par vous, Gilles. Aujourd'hui, on voit... Alors, vous avez fait partie du précédent gouvernement, quelques mois. Vous avez aussi une action très forte au sein de l'Association de l'Île-de-France. Vous êtes un maire engagé. Si je vous demandais comme ça, à brûle pour point, de me dire quel le sentiment vous avez dans le traitement que vous en tant qu'élu local, vis-à-vis d'un exécutif qui parfois, on ne peut pas toujours dire qu'il soit voilà, à l'écoute. On peut dire les choses comme ça.
Alors effectivement, on a souvent reproché au président de la République, même quelquefois au gouvernement, d'être déconnecté du territoire par manque d'expérience, par manque de présence d'élus dans le gouvernement. On voit aujourd'hui que les choses sont reprises en main, j'allais dire, et que la considération portée aux élus est plus forte. On parlait de Valérie Létard qui était là hier, sénatrice très proche des territoires. Voilà, on doit, mais c'est notre combat de tous les jours à Ville-de-France, toujours essayer de porter nos problématiques, montrer qu'on est là, que la France, évidemment, c'est pas que Paris, c'est un réseau et une structure de villes moyennes qui est juste incroyable, qui irrigue notre territoire au plus près. Donc on a besoin d'écouter ces territoires et leurs élus, qui sont les fantassins de la République, comme on le dit au quotidien.
Ben oui.
Voilà,
oui.
Donc on est des optimistes par nature quand on s'engage pour être maire d'une ville, quelle que soit sa taille. D'ailleurs, on a la volonté de faire bouger les choses, d'aller de l'avant, de transformer nos territoires, de répondre aux attentes de nos habitants. Donc c'est ce qu'on porte comme voix auprès de l'exécutif pour le convaincre de s'appuyer sur nous.
Quand vous venez ici au MIPIM, vous y cherchez quoi ? À rencontrer qui ?
Alors, on y cherche quelquefois de l'inspiration, quelquefois aussi des investisseurs pour nos territoires, parce que les villes moyennes ont pendant longtemps pas été dans le scope ou dans le radar des territoires sur lesquels on investissait. C'était le tout métropole. Depuis quelques années, ça s'est inversé. Nos villes moyennes ont retrouvé une attractivité, ont retrouvé de l'intérêt pour les investisseurs, particulièrement dans l'immobilier et dans le logement, parce qu'aussi il y a eu des politiques, Action Cœur de Ville qu'on a menées avec l'Agence Nationale de l'Habitat, avec la Banque des Territoires, avec Action Logement, qu'on a mis en place des financements qui rendent rentables des opérations qui n'étaient pas auparavant.
Je vais vous poser la même question, Philippe Buisson, le sentiment que vous avez.
Oui, je partage ce qu'a dit Gilles, c'est-à-dire qu'il y a un pacte de confiance à renouer entre le gouvernement, peut-être même... entre le chef de l'État et les territoires, les élus locaux. Il y a eu des maladresses qui ne sont pas simplement liées d'ailleurs aux attitudes, aux postures, aux politiques mises en œuvre depuis plusieurs années. C'est, ça vient peut-être, et le débat mérite d'être posé sur le non-cumul des mandats. Hein. On ne peut plus aujourd'hui être et parlementaire et maire, et parlementaire et président d'un exécutif. Le débat renaît et c'est sain qu'il renaisse parce que je crois que ça affaiblit doublement, ça affaiblit le Parlement avec parfois des parlementaires qui semblent effectivement déconnectés. Il n'y a pas que les ministres, hein, les débats parlementaires où les attitudes des parlementaires posent question. Vous savez que dans les collectivités locales, on a l'habitude du dissensus. C'est normal, mais on a aussi l'habitude de rechercher le consensus, ce que ne font que trop rarement les parlementaires.
C'est très clair.
Et donc, être élu local, c'est aussi être dans une position, une recherche du consensus permanent, pas de la fracture permanente. Et donc, c'est mieux quand les élus locaux nourrissent le débat national, ça va plus vite et c'est plus apaisé.
Mille fois d'accord avec vous.
Et je suis très heureux quand il y a des maires qui deviennent ministres, en plus quand ce sont des maires de villes moyennes et des amis.
Rachel Blanc, votre idée pour l'introduction ?
Eh bien, pour introduire, effectivement, avec Quentin Brière, notre énergie, en fait, nous la passons à, comme l'a dit et souligné mes collègues maires, à créer des alliances, à fédérer des énergies, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient dans le monde de l'immobilier privé. En tout cas, tout ce qui contribuerait à faire exister notre ville moyenne qui est Saint-Dizier, mais toutes les autres villes moyennes, parce qu'en fait, il n'y aurait rien de pire que de penser que tout se détermine à Paris ou dans les métropoles. On sait que la tout-métropolisation, ça vient vraiment bousculer un petit peu l'état d'esprit des Français, l'état d'esprit de nos habitants. Et tout l'enjeu et tout notre travail consiste à réconcilier un peu ces territoires. Parce qu'il n'est pas question d'être ville moyenne versus métropole, pas du tout. Mais bien sûr, de nous faire exister et de jouer ce rôle de centralité.
D'ailleurs, on devrait peut-être bannir le mot moyen. C'est moyen de moyen. C'est une ville.
Vous avez raison.
Et finalement, vous savez, c'est comme le terme retraité. On se retire de quoi ? On n'est pas mort parce qu'on est à la retraite et... plein de choses. Je trouve ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que la tentation, c'est historique en France, hein, jacobine, elle est très prégnante hein, dans notre pays à vouloir centraliser. Vous, ACT Commodities, ACT France, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu le périmètre de votre activité pour qu'on comprenne bien ce que vous faites, parce que vous êtes un acteur extrêmement important. C'est pour ça qu'on a souhaité que vous soyez là. Et vous le savez, les maires de France ont besoin de vous, et les maires en général, d'ailleurs en Europe, hein, je le vois en Espagne, en Italie, en Hollande aussi, où vous travaillez énormément, vous les aidez finalement à trouver des structures et des financements, parce que je peux vous dire que les financements pour les mairies en ce moment, c'est une grosse, grosse galère.
Oui, non, absolument. Aujourd'hui, nous, notre objectif, en fait, c'est d'accélérer la transition énergétique et environnementale, notamment sur les territoires. Cette transition, elle doit s'opérer par le territoire et pour le territoire. Donc, de facto, l'objectif derrière, c'est l'enjeu de financement. L'enjeu de financement qui est absolument clé dès lors qu'on doit opérer à cette transition massive pour aller chercher les objectifs des accords de Paris. Le certificat d'économie d'énergie est aujourd'hui un dispositif absolument essentiel pour financer cette transition énergétique. Alors, je suis absolument ravi puisque dernièrement, la programmation pluriannuelle de l'énergie a reclarifié, reprojeté le dispositif C2E en annonçant une sixième période avec même une projection sur une obligation de volume en septième période. Donc ça donne un peu de visibilité qui est absolument essentielle pour les territoires puisque ça permet d'aller chercher et d'opérer des projets qui peuvent être des projets à moyen ou long terme via le biais de ce financement-là.
Basiquement, qu'est-ce que vous faites pour les villes ? Du raccordement au réseau de chaleur, voilà, expliquez-nous par le menu, en étant extrêmement pédagogique. Voilà, j'ai 5 ans d'âge mental, expliquez-moi comment vous faites, parce que je comprends le mécanisme des certificats d'énergie, on est d'accord, c'est un dispositif de financement privé.
Absolument.
Et ce sont un système de pollueur-payeur.
Tout à fait.
Voilà, donc en fait, ceux qui émettent du carbone, ils compensent en financement des certificats d'économie d'énergie.
Absolument, donc dès lors que vous avez une activité de vente d'énergie, vous avez l'obligation de financer des projets d'efficacité d'énergie qui se matérialisent par l'acquisition de certificats. Donc c'est un financement basé sur le principe du pollueur-payeur, comme vous l'avez dit, absolument, donc des fonds privés et qui viennent financer la transition énergétique et la rénovation énergétique.
Qu'est-ce qu'on finance pour les villes ? Elles sont bénéficiaires de quoi ?
Alors, il y a des centaines de fiches qui sont là pour financer cette rénovation énergétique. Ça passe par de l'éclairage, de la pompe à chaleur, de la gestion technique de bâtiments. Vous l'avez évoqué, du raccordement au réseau de chaleur. Donc ça, c'est absolument clé.
Une cour d'école qui est bitumée, qu'on veut rendre à la nature, vous pouvez vous occuper de ça, des travaux, tout ça ?
Alors non, la dimension paysagiste ne fait pas encore partie du dispositif. Mais clairement, on a aujourd'hui une richesse folle avec des réseaux de chaleur urbains qui sont nombreux sur ce territoire. La décarbonation qu'on est en train de mener, elle passe par l'électrification et par cette chaleur qui est disponible et pour lesquelles il faut impérativement raccorder les bâtiments des villes et électrifier les usages plus globalement.
Alors merci, parce que c'est le premier sujet. Je voudrais qu'on parle, pour ce premier sujet, de la transformation environnementale des villes. Je vais enlever le mot ville moyenne, je vais le bannir de mon vocabulaire pendant une demi-heure. Et je vais vous demander, messieurs et dames, comment on interprète. Moi, je voudrais vous juste faire un focus et avoir votre avis. Vous l'avez vu, hein, vos dotations quand même beaucoup baissé, on peut le dire. Il y a des relais de croissance qui ont été rognés très largement auprès des villes, qui vous placent parfois dans l'incapacité à agir. La deuxième chose, c'est que l'État vous demande d'être à l'équilibre dans vos budgets. Alors, je ne parle pas des investissements, hein, parce qu'on m'a reproché de dire « non, c'est trop facile de le dire comme ça ». Mais quand même, je trouve un peu paradoxal qu'on ait un État qui donne des leçons de gestion à des organisations et des collectivités locales, alors que lui-même est chroniquement déficitaire. Donc, je ne tape pas forcément systématiquement sur l'exécutif, mais j'aimerais avoir votre avis sur comment, lorsqu'on est maire de France aujourd'hui, on arrive à joindre ces injonctions qui sont contradictoires et, j'allais dire, presque permanentes. Alors, je grossis un peu le trait, je fais mon journaliste, c'est normal, mais je veux dire, à un moment donné, ça devient presque schizophrénant. Et on se dit, mais non, c'est un sacré sacerdoce que d'être maire de France aujourd'hui. Bon, encore une fois, je force un peu le trait. Gilles Averous.
Oui, la réalité, elle est là et elle est durable. On sait qu'on nous a supprimé nos impôts locaux qui produisait l'essentiel de nos ressources financières. Bah, exactement. Maintenant, le constat, il est là, il faut faire avec. Ce qu'on vient d'expliquer avec les certificats d'économie d'énergie, c'est essentiel. Si je prends l'exemple de l'éclairage public, quand vous passez votre éclairage public en LED, vous économisez 70% de consommation énergétique. Je ne parle pas du prix, parce qu'évidemment, le prix énergie varie, mais c'est énorme. Ça vous produit des CO2 que vous allez vendre sur un marché avec un prix variable, qui va vous amener une ressource financière. Je connais plein d'exemples de collectivités qui ont été pionnières, qui ont très rapidement, dans un délai de 3 ans, 4 ans, renouvelé 100% de leur parc d'éclairage public, tous les points lumineux, qui ont eu des subventions, parce qu'au départ, quand vous étiez pionnier, vous étiez subventionné, qui ont vendu les CE2E et qui, au final, ont gagné de l'argent, parce que la vente des CE2E, elle a largement couvert la partie qui restait à charge de la collectivité. Et aujourd'hui, dans la rénovation du logement, il faut qu'on passe à des systèmes de financement plus institutionnalisés. Il y a deux clés, je pense, pour réussir aujourd'hui à créer du logement supplémentaire et à rénover du logement existant. La première clé, c'est de donner plus la main aux collectivités locales à l'échelle de l'intercommunalité, que ce soit les élus qui décident et qui travaillent, j'allais dire, parcelle par parcelle, îlot par îlot, à l'échelle de leur territoire, évidemment en contractant avec l'État et en conventionnant avec l'État. Mais on a besoin d'avoir ce pouvoir, comme on l'a fait sur les énergies renouvelables ces derniers mois, de travailler à l'échelle vraiment, je veux dire, jusqu'à infracommunal, une réflexion intercommunale, mais une étude parcelle par parcelle, îlot par îlot. Dans les villes dont on a la chance de diriger l'exécutif, on est quasiment tous dans le dispositif Action Cœur de Ville, souvent avec des raménagements de quartiers-gares. Là, on a des territoires sur lesquels on doit intervenir, tant en rénovation qu'en construction neuve. Et avec ces systèmes de financement, j'ai dire modernes et innovants, que sont les certificats d'économie d'énergie, on doit pouvoir porter des opérations.
C'est très, très clair. Philippe Buisson.
Oui, la crise ukrainienne, il y a 3 ans, s'est transformée en crise énergétique et nous a obligés. Chacun se souvient.
C'est clair.
Des injonctions qui nous étaient faites de devoir baisser la consommation de nos énergies. Alors, chacun était interpellé, les citoyens, mais forcément les collectivités devaient jouer leur rôle, d'une part donc en diminuant nos consommations et en produisant. Et ça nous a fait faire finalement cette crise des pas importants pour repenser la ville. Je ne redis pas ce qu'a dit Gilles, c'est-à-dire effectivement tout ce qui est la rénovation énergétique, l'optimisation du fonds vert, l'optimisation des C2E, etc. etc. Mais ça nous a questionné sur le confort thermique de nos gymnases, de nos piscines.
Bien sûr,
des écoles. Les dispositifs limitant à 19-20 degrés la chaleur dans les locaux collectifs. Bref, ça nous a interpellés. Mais ça nous a obligés aussi à renaturer la ville, à penser la problématique de la chaleur l'été. Libourne est une ville bastide, une ville de pierre. Et donc, par exemple, il fait très chaud dans ce sud-ouest en juillet-août, et ça nous oblige à effectivement repenser le confort thermique de nos classes, pas simplement à travers les énergies, mais aussi en renaturant les cours d'école. Donc ça nous a obligé à repenser la place du vélo, ça nous a obligé à repenser les mobilités, y compris les mobilités douces. Ça nous... Voilà, on est dans ce momentum où cette fin de mandat...
Mais ces relais de financement, ils vous sont utiles.
Oui, les relais de financement nous sont absolument utiles. Et c'est une mauvaise nouvelle que le fonds vert diminue. Que
Ah oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, mais...
C'est une mauvaise nouvelle que le fonds friche, qui était aussi un élément pour nous permettant de réhabiliter un certain nombre de friches et donc de faire renaître des bâtiments plus vertueux, disparaissent ou diminuent. Mais... politiquement, dans ce mandat, les élus ont fait un chemin absolument considérable, et ça se traduit sur un plan d'agglo en général par un plan climat air énergie qui est obligatoire, territorial, et qui finalement est un profond débat. Vous voyez, moi, à Libourne et sur la communauté d'agglomération du Libournais, je sais désormais ce que je produis sur le territoire comme énergie et ce que nous y consommons. On produit à peu près 12% d'énergie que nous consommons sur le territoire, tout confondu, hein, industrie, pétrole, électricité, etc. Eh bien, dans le débat qui s'ouvre, qui va s'ouvrir des élections municipales et donc des élections communautaires, chacun mettra son objectif à atteindre dans le prochain mandat.
Bien sûr.
Et ça, c'est hyper vertueux. Mais il faut qu'on ait des financements, et c'est vrai qu'il y a des injonctions contradictoires entre l'obligation de faire et les difficultés que nous avons à faire. Et si les ABF pouvaient nous aider dans les centres anciens à faire du photovoltaïque, par exemple, et à ne pas emmerder la population qui ne comprend pas qu'elle doit... Elle entend le président de la République dire « vous devez faire de l'énergie... de l'ENR sur vos bâtiments autant que faire se peut, et parce que vu du ciel un panneau photovoltaïque gêne la vision de l'architecte des bâtiments de France, ça ne crée pas de l'adhésion.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Rachel Blanc.
Eh bien, nous, avec Quentin Brière, ce que l'on a absolument souhaité faire, c'est dans le cadre de notre arrivée à la mairie de Saint-Dizier, c'est d'avoir un vrai plan d'action avec Révéler Saint-Dizier pour travailler sur ces sujets-là, qui étaient comment cette transition environnementale, on l'enclenche dans notre ville, mais de manière encore plus forte et impliquée de notre part. Donc, nouvelle chaufferie biomasse qui est en cours d'étude, d'ailleurs avec vous, chers collègues, et on y travaille d'arrache-pied. On en a déjà une qui est très performante. Comme le disait Gilles Averrousse tout à l'heure, l'ensemble de notre éclairage public est en train d'être mis en LED. Et donc, un investissement colossal est fait, mais du coup, on sait que
le retour sur l'investissement est juste incroyable.
Il va se faire en 60%. On avait estimé en 6 ans, et on était prudents,
6 ans.
Ça va se faire en 4 ans et demi. Donc c'est colossal. Et puis ensuite, une gestion très rigoureuse, presque un contrôle de gestion, en fait, sur tout ce que vous le disiez, monsieur le maire de Libourne, c'est vrai, ce que nous produisons et ce que nous consommons, pour être vraiment dans un détail financier qui soit... encore plus malin et encore plus efficient.
Oui, c'est un pilotage à l'échelle Iris, vraiment, véritablement.
Exactement. Et d'ailleurs, on a même fait de l'ingénierie financière pour ça, ingénierie financière pour aller chercher des subventions, parce qu'en fait, ça change tout le temps. Et en fait, ces deux postes et demi consacrés à ça nous permettent aussi de faire une sorte de retour sur investissement. Parce que le financement de nos projets, il se fait à soit 50, 60, 70%, 80% dans la majeure partie des cas.
C'est un vrai relais, on est d'accord, hein, Gilles?
Ah oui, oui,
c'est un vrai relais qui vous aide très concrètement.
Absolument, absolument. On s'est tous lancés là-dedans. Hein. On a créé une SA, une SAS, qui s'appelle Châteauroux Métropole Énergie, pour porter tous nos projets d'ombrières, de toitures photovoltaïques sur nos gymnases, nos grands immeubles.
Parce que vous l'avez fait, hein, Châteauroux. Hein.
On l'a fait. Là, ouais. On est en train de poser les premières ombrières sur les parkings. On a déjà fait pas mal de toitures. Et puis, en étant sur près de 50 km, c'est énorme, un réseau de géothermie, avec aussi... deux sources de chaleur supplémentaires, une chaufferie biomasse bois qu'on a récupérée d'un bailleur social et dans 4 ans, une unité de valorisation énergétique, donc l'usine d'incinération, la nouvelle usine d'incinération du territoire. Voilà, on est tous en train de prendre des compétences dans ce nouveau métier, parce que quand on a été élu en 2014, pour une bonne partie d'entre nous, en 2020 pour d'autres, on n'avait pas forcément cette vision énergétique de la gestion municipale. Mais aujourd'hui, elle est incontournable.
Olivier, quand vous voyez les effets que cela a de votre action concrètement sur les collectivités locales, vous en portez l'adhésion?
Oui, 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 clairement, même si pour rebondir...
Parce que c'est complexe, sujet, quand même, c'est pas c'est aussi simple.
Ouais, non, voilà. non, c'est évidemment, on essaye de simplifier le sujet,
oui, oui.
Mais c'est évidemment quelque chose d'excessivement réglementé et contrôlé, mais c'est vrai que, notamment sur les sujets solaires et d'autoconsommation solaire, j'aurais aimé voir un peu plus de concret, d'ambition dans le dernier PPE, qui en fait presque un peu abstraction, et je trouve ça dommage parce que c'est, pour les territoires, c'est un vrai sujet, bien évidemment la production et l'efficience dans la consommation énergétique.
Alors les sujets de décarbonation sont des sujets centraux, bien évidemment. D'ailleurs, tout à l'heure, on a une interview avec la directrice générale d'un des premiers certificateurs français, qui s'appelle Prestataire Certification. C'est un vrai sujet. Effectivement, on peut tous dire autour de ces deux œils planait beaucoup de suspicions, de dossiers, voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez été très précurseur, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez, les mauvais players, vous les avez stigmatisés pour que justement les meilleurs opérateurs du marché, et c'est pas simple, puissent opérer. On est d'accord là-dessus. Alors, je voulais le dire parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de faux semblants sur le sujet, puisqu'on en parle beaucoup. Hein. Tout ce qui est lié au carbone, c'est parfois un peu sulfureux. Il faut dire que sur Netflix, ça ne nous a pas aidé, sur certains documentaires notamment. Voilà. Mais je voudrais que vous réaffirmiez le fait que vous, en plus, vous êtes avec les gouvernements, vous travaillez avec des opérateurs publics. Bah, vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi, clairement.
Hein, non, clairement
juste,
pas.
Juste que, voilà, dire au patron aujourd'hui de ville, au maire de ville, que voilà, vous avez adopté ces règles. Hein. Je vous pose cette question très directement, Olivier. Hein.
Absolument. Non, mais j'écoutais Madame la ministre hier.
Je lui ai posé d'ailleurs la question, suite à l'interpellation à l'Assemblée nationale, notamment d'Anna Iglemer, la présidente du Conseil national de l'habitat, sur la fraude massive des DPE. C'est délétère. 1 300 000 DPE qui sont frauduleux. Et d'ailleurs, quand on pose la question aux bénéficiaires, malheureusement, c'est triste de l'entendre. Ils disent, mais non, mais je me suis arrangé avec le diagnostiqueur. Je lui ai filé 200 balles et puis il me l'a déclassé. Genre, il était en G et puis il se retrouve en D. Je dis, mais c'est ahurissant. Parce que les victimes sont quand même les occupants. Je voulais pas mélanger les sujets, mais...
Non, mais mais de toute façon, enfin, le traitement de la fraude, c'est un sujet en soi. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des dérives, que je pense les instances gouvernantes en ont pris conscience. Je parle spécifiquement du sujet des certificats d'économie d'énergie, et qu'il y a vraiment la volonté de rehausser les niveaux de contrôle pour réinscrire et redonner confiance dans ce dispositif qui, effectivement, a connu des dérives, mais est néanmoins absolument essentiel pour accompagner cette transition.
D'ailleurs, le gouvernement a l'intention de fusionner un certain nombre d'aides pour avoir un meilleur contrôle, bien évidemment, à travers l'Agence nationale de l'habitat, par exemple, de l'amélioration de l'habitat, donc l'ANA en question, mais également l'ADEME qui est dans le sujet. La dernière partie, je voudrais également, parce que je vais vous retrouver, Gilles, on va parler tout à l'heure d'une table ronde avec nos amis Nexity, on va parler des les maires de France sont les premiers aménageurs français. Oui. Il faut le dire, ça. Et alors moi, je soutiens Philippe Buisson dans l'idée de rompre avec cette idée de non-cumul des mandats, parce que je pense que d'être député-maire ou sénateur-maire est une excellente chose pour le territoire. La vision, un, ancrée dans son territoire, et la deuxième, de peser, parce qu'on maîtrise son territoire, sur le texte en lui-même à l'Assemblée. Je pense que c'est au Parlement, je trouve que c'est une bonne chose. Je voudrais qu'on parle justement de la place qu'ont aujourd'hui les villes qui sont parfois, au détriment de grandes agglomérations, un peu, j'allais dire, entre guillemets, délaissées. Comment on règle, Gilles, je vous avais déjà posé la question même en off, quand on a été une ville de garnison comme Châteauroux, qui a ensuite, dans les années 60, a amorcé un déclin démographique qui a été très délétère, que vous avez su stopper, endiguer et reconquérir. Comment on fait pour, quand on est dans une ville avec les bons et les mauvais côtés, attirer les investisseurs, retravailler des clusters tech, réinviter des jeunes, voilà, et relancer une démographie? Ça, ce sont des enjeux majeurs quand vous savez que vous êtes à une encablure de très grosses agglomérations. On a l'impression qu'elles aspirent tout, quoi.
Vous avez raison, une bonne partie de nos villes ont souffert de désindustrialisation, de réforme de la carte militaire avec des garnisons fermées à chaque fois avec des départs par milliers, j'allais dire, de militaires, on ne parle pas de 50 ou 100 emplois, de réforme des régions avec la création des grandes régions et donc une concentration de l'administration sur les pôles métropolitains au détriment de nos villes moyennes, et je ne parle même pas encore des sous-préfectures, vous voyez, où il n'y avait plus personne dans les administrations. Comment on fait ? On fait en disant ce qu'on évoquait à l'instant, que ceux qui savent le mieux et qui connaissent mieux leur territoire, ce sont les maires, et que c'est à eux qu'il faut donner les clés. On a eu la chance d'arriver à convaincre un ministre à l'époque, Jacques Mézard, de porter un dispositif qui s'appelle Action Cœur de Ville, où on met tout le monde autour de la table. Ceux qui sont à la fois décideurs et ceux qui sont financeurs. On avait ça sur le renouvellement urbain, sur les quartiers, mais on ne le faisait pas à l'échelle d'une ville et d'un cœur de ville. Et notre enjeu, c'est ça, c'est redynamiser nos cœurs de ville, ramener du commerce, ramener du logement, ramener de la qualité urbaine et architecturale. Avec des dispositifs, je citais tout à l'heure Action Logement, qui est venu en subvention d'opérations, et plus simplement en prêt, parce que vous pouvez toujours prêter de l'argent, mais ça ne rend pas viable économiquement une opération. Souvent, on sait que quand on intervient sur l'ancien, ça va coûter plus cher. La restructuration, forcément, elle va coûter plus cher que de construire du neuf. Donc on avait besoin de ces dispositifs de soutien. On les a eus, on est dans la deuxième génération d'Action Cœur de Ville. On a aujourd'hui une attention vraiment tous les instants auprès de nos commerçants pour aider à leur implantation, auprès des propriétaires, mais parcelle par parcelle, et j'allais dire maison par maison. À chaque fois qu'il y a une vente, auprès des notaires, on intervient pour connaître l'acquéreur, pour aller le démarcher en lui disant « voilà, vous avez droit à des dispositifs ». Aujourd'hui, les voyants sont un peu ouverts sur la rénovation, la restauration. C'est le moment d'y aller, parce qu'il y a encore des dispositifs de soutien. On sait que sur le neuf, c'était moins vrai, ça le redevient avec le prêt à taux zéro. Mais sur l'ancien, il y a de quoi mobiliser des aides nationales et des aides locales qui viennent en complément. Donc c'est le moment d'y aller. Et les élus de Ville-de-France, comme tous les maires des villes concernées, sont vraiment mobilisés pour démultiplier l'effet de cette revitalisation.
Philippe Buisson.
Ça a été dit, Action Cœur de Ville a été déterminant. En fait, avant Action Cœur de Ville, il y a eu un dispositif qui s'appelait Centre-Ville de Demain. On a découvert, nous, un partenaire qu'on ne connaissait pas, qui s'appelait la Caisse des dépôts et consignations, qui parle à personne. Et Pierre-René Lema, qui en était le patron, l'a fait muter en Banque des Territoires. Et ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que Pierre-René, que j'avais croisé lorsqu'il était secrétaire général de l'Élysée, m'a dit un jour, tu sais, pour les bons projets, il y aura toujours de l'argent. Il y a des financements. Aujourd'hui, l'État ne veut plus, donne pas des subventions parce que tu connais le président du département, de la région, ou même le président de la République. Non, il faut créer de la cohérence. Et donc, l'État, à un moment donné, nous a obligés, c'est ce qu'Action Cœur de Ville a fait, à créer de la cohérence, à rompre avec le court-termisme aussi, c'est-à-dire ne pas considérer que la fin du mandat, c'était la fin d'un projet, à objectiver la capacité à faire, à faire de manière financée, mais aussi à amener de l'ingénierie. Et donc, la Banque des Territoires a beaucoup financé nos collectivités moyennes qui sont en peine, parfois, en matière d'ingénierie, et donc à structurer des projets urbains. Et sur la base de ce projet urbain, à aller le vendre auprès de nos partenaires, c'est-à-dire le département, la région, l'État, l'Europe, et en faire du marketing territorial. Et si on est ici au MIPIM, moi je viens au MIPIM depuis que je suis maire, il y a 13 ans.
Le mot marketing, ça me plaît. Oui. Moi, ça
mais en fait, qu'est-ce qu'une ville comme Libourne, qui est une ville moyenne de 25 000 habitants au cœur d'un d'une aglo de 120 000 habitants, vient faire dans un
oui, dans un MIPIM, où il y a 90 pays, où s'échangent des centaines de milliards d'euros.
Eh bien, on vient y chercher des partenaires, mais on vient aussi se challenger sur du marketing territorial, faire renaître nos identités de ville et créer de l'image positive. Donc, c'est vrai que Jacques Mézard a été conclu ce travail, ce projet qui avait été initié avant lui, y compris par François Hollande, qui a créé les premières dotations de soutien à l'investissement local, la DECIL,
on peut aussi parler de Jean-Louis Borloo.
Oui, oui, Jean-Louis Borloo. Mais voilà,
Avec l'Anruin, par exemple, qui a été une révolution.
Les villes moyennes étaient.
Le fameux plan Marshall des banlieues, lui qui a été à l'origine. Mais les dotations étaient de 17 milliards à l'époque. Voilà, qui n'ont pas été.
Mais les villes moyennes que nous représentons, qui ne sont pas des villes banlieues, justement, qui sont des villes centres.
Absolument.
Eh bien, nous étions des territoires interstitiels, comme on dit, impensés. Depuis 30 ou 40 ans.
Qui a trouvé ce mot interstitiel ?
Oui, je ne sais pas.
Extraordinaire. Non, ça vaut le coup de faire des études, je veux dire.
Oui, ben, ça, c'est... Puis, non, mais c'est... ça fait du vocabulaire.
C'est un mot qu'on double.
Merci Philippe. Rachel Blanc.
Merci pour ce petit moment sémantique, vous avez raison.
Oui,
on est tous touchés. Nous, c'est les territoires périphériques. Enfin, voilà. À Saint-Dizier, en fait, ce qu'avec Quentin Brière, on essaie de faire.
Parce que vous avez endigué le déclin démographique. Hein,
voilà, il y a des vrais indicateurs qui sont en train de montrer que la tendance s'inverse. En tout cas, on n'est plus dans le déclin, donc c'est majeur. On était dans Action Cœur de Ville, comme le disaient mes collègues. Ça a été un premier temps, 20 ans, avec l'ancien député maire qui a été majeur, pour remettre à niveau cette ville. Quand nous arrivons, on recrée un nouveau projet. C'est révéler Saint-Dizier, qui là, en effet, prend tout en main. C'est-à-dire de la culture, en passant par l'éducation, en passant par les familles, les solidarités, la transition environnementale, l'immobilier et le sport, etc. Vivre la ville, transformer cette ville de Saint-Dizier, qui est petite, mais qui a tout d'une grande, comme le dit monsieur Quentin Brière, il a le sens de la formule, on le connaît tous. Et donc, c'est ça l'enjeu, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Vous l'avez dit, monsieur le maire, Philippe, vous avez raison. En fait, finalement, il y a un moment, il faut aussi avoir un peu un avis d'opportunité. Si le projet, il est bon, on trouvera des financements, en effet, et on fédérera les énergies. Donc, c'est ça le sujet. La dernière belle victoire, c'est l'alliance foncière qu'on vient de révéler dans ce MIPIM.
Absolument.
On était là pour ça, avec le groupe Pichet et avec la ville d'Aubervilliers, un aménageur qui est l'aménageur parisien qui nous a aidés là-dessus, a réussi ce grand pari de faire construire du logement nouveau par un promoteur privé à Saint-Dizier, et ça fait 30 ans que ça ne s'est pas fait. Alors, donc des petites victoires comme ça, franchement, je vais vous la partager.
Je vais vous donner aussi un exemple, c'est la valeur du mètre carré, qui peut être très hétéroclite et très changeant d'une ville à l'autre, mais pas le coût de construction et pas le coût de rénovation. Et quand vous dites à un Français qu'il faut faire 20 000 euros de travaux pour rénover sa maison, vous savez, quand il est à Neuilly-sur-Seine, ça va. Hein, quand il est en banlieue parisienne, avec une valorisation au mètre carré qui est correcte. Mais allez dire ça à quelqu'un dont le pavillon vaut 170 000 euros à Châteauroux ou chez vous à Saint-Dizier. Ça représente 30 ou 40% des fois de la valeur. Non, mais c'est, voilà, on en est là. Donc il faut aussi retravailler de façon prosaïque au lieu d'avoir des calendriers un peu contraints. On va devoir se quitter. Je vous propose, et ça, Olivier Loisana, il connaît la règle, c'est un petit jeu de clôture. Je vais vous demander à chacun, parce que voilà, je me sens un peu inspiré ce matin, de me donner un mot, un adjectif qui qualifierait très spontanément les propos que nous venons d'échanger. On va commencer par vous, Olivier. Un mot comme ça, qui vous vient naturellement.
Écoutez, je dirais attractivité.
Ah, pas mal. Attractivité. Gilles Averous.
Essentiel. Moi, je crois que ces débats qu'on porte ici, ils sont fondateurs pour nos collectivités, pour nos villes moyennes en particulier. On doit aujourd'hui se mobiliser, donc c'est essentiel d'être sur le terrain.
Pour Gilles. Rachel.
Enthousiasme.
Philippe Buisson.
Oui, mais moi j'allais dire aussi enthousiaste. Enthousiaste parce que les maires bâtisseurs sont des maires heureux.
Voilà. Et donc vous diriez
J'ai envie de dire aussi enthousiasme ou positif, mais faut pas croire que les maires sont tous défaitistes.
On va dire heureux. Regardez, je reprends le mot heureux.
Oui. La quête du bonheur.
Parce que faire preuve d'enthousiasme, c'est d'abord être heureux pour développer de manière essentielle l'attractivité des villes dont vous avez la charge. Et je pense que c'est une très belle chose. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous retrouve tout à l'heure, d'ailleurs, mon cher Gilles, pour parler de l'aménagement territorial avec nos amis de Nexity. Merci, Olivier Voisana.
Merci.
Voilà, président d'ACT France. C'était hyper important que vous soyez là. Vous nous avez beaucoup aidés. Je pense qu'il y a beaucoup de maires de France qui vont être extrêmement intéressés à vous rencontrer. Un immense merci à Gélin Bérousse, président de l'Île-de-France, maire de Château. Merci de répondre toujours présent à nos invitations. Un immense merci à vous, Rachel Blanc, première adjointe à la mairie de Saint-Dizier, de nos amitiés à Quentin-Brière. Et un immense merci à Philippe Buisson, maire de Libourne, que nous aimons beaucoup. Pour revenir, Philippe. Hein,
oui, mais c'est vous qui allez venir au congrès de Ville-de-France.
Alors je viens à Libourne. Parce qu'on se marre un peu, voilà, parce qu'on peut prendre aussi,
début juillet.
Parce qu'on peut prendre du plaisir, on est d'accord, et sourire un peu dans un monde parfois qui est un peu limite de ce point de vue-là. Voilà, j'étais ravi de partager ce moment avec vous. À suivre, nous allons recevoir la directrice générale de prestataire certification et de sa collaboratrice qui est chargée des affaires publiques, Justine Rostand. On va parler justement de la certification qui est un enjeu majeur dans les villes aujourd'hui de France. Vous savez, hein, vous avez aussi, de ce point de vue-là, un rôle majeur, messieurs et mesdames, à jouer. On se retrouve, voilà, dans quelques instants, à suivre ensuite une table ronde avec Nexity, où nous retrouverons d'ailleurs le maire de Châteauroux pour parler de l'aménagement. À tout de suite.